Bonjour, nous sommes le lundi 4 juin 2018, vous écoutez Radio Campus Paris, il est 14h, c'est l'heure de la relève.
Je voudrais être footballeur professionnel, styliste.
Pilote d'avion de chasse pour m'engager dans l'armée et défendre la population et tout ça.
Je voudrais devenir peintre, chef cuisinier, chef de commerce, biologiste.
La relève sur Radio Campus Paris.
Une semaine sur deux et au moins jusqu'à la fin du mois de juin, la relève, c'est 30 minutes avec les talents de demain. Aujourd'hui, on parlera cordes et archers, mais aussi de Bach, et notre invité pourtant est violoncelliste. Victor Julien Laferrière, bonjour.
Bonjour.
Donc vous êtes bien violoncelliste, je l'ai bien dit ?
Absolument.
Et donc vous êtes l'illustration vivante que la valeur n'attend pas le nombre des années, puisque vous avez déjà eu plusieurs prix, notamment celui-là. Donc c'est donc vous qu'on vient d'écouter, Victor Julien Laferrière, dans un extrait du concerto numéro 2 en D majeur de Haydn. C'était au concours Queen Elizabeth, alors qu'il se déroule pas au Royaume-Uni, mais en Belgique, car il y a une reine Elizabeth en Belgique.
Il y avait une reine Elizabeth en Belgique, en effet.
Et donc c'était...
Celle-ci était reine dans les années 30, au moins à la création du concours. Je ne connais pas ces dates exactes. Mais...
Alors cet enregistrement-là, c'était il y a un peu plus d'un an, et vous l'avez gagné. Quel souvenir vous en avez aujourd'hui ?
Un souvenir, alors ça dépend de quelle partie, parce que c'est l'un des concours les plus longs qui existent pour notre instrument.
C'est-à-dire
un concours qui s'étale sur presque un mois,
ah oui,
avec des épreuves assez diverses et variées pour varier les plaisirs, n'est-ce pas ? Mais je pense que le sentiment qui prédomine, c'est quand même un immense stress, malgré tout.
Au moment où vous jouez Haydn, c'est quand même du bonheur, non ? Ou...
Non. c'est du bonheur de l'avoir fait, c'est du bonheur, l'idée de le faire, c'est du bonheur, mais en lui-même, c'est pas du pur bonheur de chaque instant que je non, c'est pas cette sorte de bonheur-là.
Même si vous êtes très jeune, pourtant vous avez déjà dû en passer beaucoup de concours, non ?
C'est comme un marathon. Si vous faites un marathon, qu'on vous demande vers le 30e kilomètre, est-ce que c'est du bonheur ? Est-ce que tu veux dire ? Vous allez dire.
Moi, je serais capable de demander. Hein.
Mais vous allez probablement répondre là tout de suite, non.
Et
mais...
m'en mettre une. Et... comment vous êtes devenu violoncelliste ? Alors, parce que là, on est au moment, il y a un an, où vous avez ce prix, puis après, vous avez une victoire de la musique.
Alors on devient violoncelliste, il y a plusieurs manières différentes. En général, si on devient violoncelliste professionnel, on commence quand même assez jeune. Et donc moi j'ai commencé à l'âge de 7 ans. Il se trouve que j'avais déjà commencé la musique parce que je suis d'une famille de musiciens. Voilà, donc j'ai commencé à l'âge de 7 ans et ensuite assez rapidement j'ai su que je ferais de la musique. Je savais pas encore si je serais violoncelliste ou autre chose dans la musique, mais ça a toujours été assez évident que je
serais
musicien.
Mais à 7 ans, comment on a l'idée ? Moi j'avais jamais vu un violoncelle à 7 ans. Alors, j'ai pas de famille de musiciens, mais quand même. C'est-à-dire que vous avez vu des gens jouer, vous avez accompagné vos parents au concert
ou... Il y a quelques photos, je me rappelle pas de tout, mais il y a quelques photos où en effet on voit assez clairement, en tout cas sur la photo, que je suis passionné de musique. Pas que du violoncelle, voilà, je suis passionné par la clarinette de mon père. Je suis passionné par les concerts que j'allais écouter. J'étais très demandeur à mes parents d'aller écouter leurs répétitions, d'aller écouter leurs concerts, etc. Donc j'étais au contact d'à peu près tous les instruments de l'orchestre très rapidement.
Et vous l'avez choisi ou c'est vos parents qui vous ont dit tu feras du violoncelle parce que genre personne n'en fait dans la famille,
oui,
on a besoin d'un violoncelliste et tais-toi.
Alors non, pas du tout de cette manière là mais c'est un petit peu vrai parce que en gros ma sœur faisant déjà du violon et du piano, c'était assez logique que je fasse pas le même instrument qu'elle, si vous voulez, donc on s'est un peu réparti de cette manière.
Et alors quand on a 7 ans, qu'on est un enfant, un violoncelle, c'est l'Himalaya, c'est où il y a des petits violoncelles pour les enfants.
Oui, il y a des petits violoncelles, il y a des violoncelles pour les enfants.
Et qu'on le même son, qu'on le...
C'est moins bien, c'est moins beau, c'est moins large, c'est moins... Mais c'est parfait pour cet âge-là et pour cette taille-là. Mais évidemment, on a qu'une envie quand on joue du violoncelle à cet âge-là, d'avoir la taille d'adulte pour pouvoir jouer enfin sur un grand violoncelle.
Ouais, parce que c'est un instrument qui a une esthétique extraordinaire, qui a été photographié par beaucoup de photographes, évidemment. C'est quelque chose auquel on pense. Vous aviez en tête ces photos surréalistes après, plus tard ?
Non. J'ai dû voir certains détournements de grands artistes, en effet. Mais je pense même pas avoir vraiment fait l'art là relation avec mon violoncelle pendant assez longtemps. Donc, pas exactement. Pas, et puis, j'ai pas forcément cette relation mystique avec l'instrument. Il y en a certains qui vraiment leur donnent des noms.
L'autre n'a pas de nom.
Elle, etc. Le mien, probablement pas. Par contre, on passe tellement de temps dessus et c'est tellement important.
C'est combien
une part
de temps
de notre identité, puisque mon identité est tellement confondue avec mon rôle de violoncelliste. Et mon rôle de violoncelliste est lui-même tellement confondu avec mon violoncelle que tout se confond.
Et c'est devenu... ça veut dire que si demain vous devez changer d'instrument, de violoncelle, vous allez avoir l'impression de changer un peu d'identité. Vous serez à un moment où vous ne saurez plus très bien qui vous êtes, entre guillemets.
Alors, il y a certainement, si j'étais obligé de changer sans que je l'ai voulu, ensuite, si j'ose espérer que ce serait par choix, et dans ce cas-là, j'aurais choisi un violoncelle que je penserais aller particulièrement bien avec ce que je crois être mon identité de musicien.
Mais ça veut dire quoi? Parce que pour un non-musicien, un non-initié comme moi, j'ai du mal à comprendre. C'est quoi? C'est quelque chose qui sonne comme vous avez envie que ça sonne? C'est un prolongement de vous-même? Puisque...
Je pense que c'est assez comparable à la voix, à sa propre voix. Dans le côté rationnel, dans le côté irrationnel. C'est-à-dire, on dit toujours que personne n'aime sa voix. Alors vous, peut-être faisant de la radio, c'est peut-être un peu différent. Vous avez peut-être
l'habitude de vous entendre. Non, mais moi, je suis très narcissique, donc j'adore ma voix.
Mais la plupart des gens n'aiment pas spécialement leur voix, par exemple.
Non, bien sûr.
Au-delà du fait de... Enfin, c'est ce que je veux dire, c'est pas forcément que j'aime pas quand j'écoute ce que je fais. C'est plutôt qu'il y a tout ce côté où on s'entend pas vraiment, on n'entend pas vraiment la réalité de notre propre son. Donc c'est tout un monde de l'instinct. On pense que ce violoncelle va mieux nous convenir parce qu'il a plus de potentiel, etc. Je sens bien que je suis pas en train de trouver l'image choc qui va tout faire comprendre la problématique.
Non, mais en fait, si, ce qu'on comprend très bien, c'est qu'en fait, vous, le violoncelle, contrairement à ceux qui vous écoutent qui sont en face, vous l'entendez de dos. Enfin, je peux
comprendre.
Finalement, vous l'entendez pas comme l'entend le spectateur. Il sonne pas pareil pour vous.
Les chanteurs aussi ont cette problématique de manière encore plus flagrante, je crois.
Et si je reviens quand vous aviez 7 ans, on joue quoi, 7 ans au violoncelle?
On joue beaucoup d'exercices. C'est vrai que je ne vous cache pas que les débuts des instrumentistes à cordes, surtout quand on est jeune, on prend le temps, etc., ne sont pas forcément très glamour. Parce qu'au début, on fait des sons qui ne sont pas, pas forcément très, très esthétiques ni rien. Il faut persévérer au bout de quelques années. Voilà. Mais donc, pour vous dire,
Vous n'avez jamais eu envie d'arrêter parce que vous trouviez ça horrible, pénible? Et moi, je vais faire la clarinette.
Curieusement, plus tard. Si, vous savez, quand on devient très perfectionniste, enfin, on l'est certainement tout de suite, mais je veux dire, quand on est consciemment perfectionniste ensuite, et que on a l'impression qu'on n'arrivera jamais à atteindre son degré d'exigence, je pense que c'est dans tous les domaines pareil, on a envie de raccrocher certaines fois, mais c'est, espérons, assez passager.
Vous venez d'une famille de musiciens, comme vous avez dit tout à l'heure. À l'adolescence, vous n'avez pas eu envie de tout envoyer valser, de faire du jazz, du rock, faire le violoncelle, jamais, maintenant, je veux une guitare?
J'ai eu très souvent envie de faire autre chose que le violoncelle, mais je restais assez, alors certains vont trouver sagement, moi j'ai jamais réfléchi en ces termes, mais je restais quand même dans le domaine musical. Je voulais être chef d'orchestre, mais je suis pas sûr que ce soit quelque chose qui était lié à mon âge ou au fait d'être adolescent. Non.
Et vous avez jamais envie d'explorer d'autres répertoires?
De connaître d'autres répertoires, si, et d'ailleurs petit à petit je les découvre. J'ai grandi vraiment dans un environnement, et puis moi-même mes goûts me portaient exclusivement vers le monde de la musique classique, mais de plus en plus j'écoute d'autres choses. Ça vient un peu tardivement, j'ai pas non plus 12 ans, mais ça vient.
Mais vous justifiez
et donc, j'ai
pas,
toujours eu envie de connaître d'autres choses, mais de là à jouer ça professionnellement, c'est un pas que je suis pas prêt de franchir.
Et donc vous avez depuis toujours une passion pour le répertoire classique?
Oui.
Et pour
oui.
Une période particulière pour...
C'est l'une des choses que j'aime vraiment bien avec le violoncelle, c'est qu'il y a un répertoire qui est beaucoup plus restreint, par exemple le piano ou certains instruments, mais il est quand même suffisamment étendu pour que on n'en voit pas forcément le bout en une vie de violoncelliste, si vous voulez. Et en particulier, on a quand même le temps de découvrir le répertoire d'un peu toutes les périodes de la musique.
Il y a encore aujourd'hui.
Quand je dis toutes les périodes, c'est à partir de début 18e siècle à peu près, jusqu'à nos jours.
Il y a des gens aujourd'hui qui écrivent encore pour le violoncelle?
Ah oui, beaucoup. Ah oui.
Il y a des morceaux contemporains que vous pouvez jouer pour violoncelle?
Énormément, absolument. Et d'ailleurs, j'en joue très régulièrement. Ça, j'aime beaucoup. J'ai un goût vraiment pour la musique contemporaine, comme on dit.
I'm not afraid to die.
C'était Kate Bush qui chante The Sensual... Bah, j'y arriverai jamais. The Sensual World.
La Relève, tous les lundis à 14h sur Radio Campus Paris.
Puisque vous riez, Victor, Julien, Laferrière, vous arrivez à dire sensual en anglais, moi j'arrive pas.
Sensual.
Ah, sensual, voilà, c'est ça. Vous donnez donc des cours d'anglais aussi?
Non.
Vous en avez pris?
Non, j'ai pas pris de cours d'anglais, j'ai appris un peu sur le tas, je suis allé partir étudier en Allemagne assez tôt, à 17 ans.
Énervez-moi encore un peu.
mais non, c'est parce que je n'ai pas appris l'allemand que j'ai dû apprendre l'anglais, pour pallier à mes manques.
Et quand vous étiez donc petit, vous avez appris à faire de la musique, et à quel moment vous rentrez au conservatoire?
Au Conservatoire National à Paris, je suis rentré à l'âge de 13 ans.
Et là, c'est à plein temps quand on y rentre ?
Oui, là, c'est à plein temps. Oui, si, c'est à plein temps. C'est considéré comme des études supérieures, en fait. Il y a un système en France où on peut encore, c'est comme une sorte d'archaïsme, on peut encore rentrer très très jeune au conservatoire, alors que c'est considéré comme des études d'après-bac, si vous voulez, comme un master.
Et donc là, parce que vous dites que vous avez un répertoire que vous aimez, mais est-ce que là, à cette époque-là, vous avez joué des, je n'aurais pas lesquels, mais des musiciens que vous n'aimiez pas, des choses que vous n'aimiez pas? Il y a des morceaux qu'on est obligé de jouer? Quand on apprend, comment ça se passe?
Oui, quand on apprend, il y a tout le monde, des exercices, des gammes. Enfin, les gammes, ça continue, et l'exercice aussi d'ailleurs. Mais je veux dire, on a peut-être l'impression d'avoir moins de compensation au début, si vous voulez, parce qu'on voit moins le but. C'est normal, c'est dans tous les domaines pareil. J'imagine quand vous faites de la gymnastique, on doit passer par plein de petits assouplissements.
C'est vraiment de la gymnastique.
Décidément, mes exemples ne vous parlent pas aujourd'hui. Mais en tout cas, oui, je pense qu'au début, c'est un petit peu difficile. Mais quand on passe quelques années, ensuite, on commence à prendre du plaisir, à jouer avec d'autres gens, à faire de l'orchestre, à faire de la musique de chambre. On a des amis dans son domaine d'activité.
Comme tout le monde, vous êtes très normal.
Ah ben, j'espère.
C'est bien ce qui m'avait semblé quand je vous ai vu arriver, même si j'étais surpris par votre parapluie. Mais... Non, je ne suis pas déçu. Qu'est-ce qui vous intéresse dans notre époque?
Dans notre époque,
aujourd'hui, puisque vous êtes
très passionné par la politique, par exemple. Très passionné par ce domaine-là.
C'est-à-dire que vous suivez, vous regardez les émissions?
Je lis beaucoup, je pense que je regarde beaucoup de documentaires, j'aime beaucoup les documentaires. Je trouve pas beaucoup de gens pour les regarder avec moi, parce que ça a l'air d'être un format un peu rébarbatif pour beaucoup, mais j'aime beaucoup les documentaires, je lis beaucoup le journal, je trouve que c'est la manière que je préfère pour apprendre les nouvelles, pour apprendre ce qui se passe dans le monde, etc.
Et quand vous dites vous intéressez à la politique, vous intéressez à la politique française, internationale, mondiale, vous intéressez aux jeux politiques, aux enjeux?
Je connais mieux la politique française, mais potentiellement celle mondiale. Après, je vais pas vous faire semblant que je suis un spécialiste. Ou que
je suis là parce que c'est un grand oral, vous savez.
non, mais je veux pas me faire passer pour un spécialiste de ça, mais en tout cas, c'est vrai que j'ai vraiment un goût pour ça.
Et dans le milieu qui est le vôtre, qui est finalement un milieu qu'on connaît très mal quand on ne lui appartient pas, on parle de quoi? On parle entre deux concerts, avant un concert? On parle justement de politique, ou est-ce qu'on reste? On imagine souvent les musiciens obsédés par la musique, ne vivant que par ça, dans ça. On imagine que vous parlez que de Schumann, par exemple.
Alors, on parle pas forcément que de Schumann. C'est plutôt, je pense que c'est vraiment comme tous les autres milieux. Là aussi, c'est très très normal, en fait. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de notre propre milieu, et c'est pas un compliment ce que je suis en train de dire. On parle probablement pas assez des réelles choses importantes de notre métier. C'est-à-dire qu'on parle probablement pas assez de musique, en fait. On parle probablement un peu trop de potins. Et
il y a tous les potins. Bien sûr, oui, j'avais pas pensé à ça.
Non, mais je dis ça par provocation, mais c'est un peu vrai.
Et dans un orchestre, il y a du monde.
Et aussi, exactement comme le reste de ma génération, par exemple, pour prendre les musiciens de ma génération, on parle probablement pas assez de politique, ou alors on en parle mal. C'est-à-dire on est une génération qui, je trouve, en tout cas, connaît assez bien, suit assez bien les polémiques du moment, les choses qui défraient la chronique, etc., mais connaissent assez mal les dossiers, en fait. Donc on entend beaucoup de contre-vérités, on entend beaucoup de choses de ce genre-là.
J'ai vu que vous aviez eu un prix Safran. Le CD qu'on a, enfin l'extrait du CD qu'on a écouté tout à l'heure, c'est une question politique en fait que je vous pose d'air de rien, et a été sponsorisé, enfin non pas sponsorisé, mais en tout cas mécéné par BNP Fortis. Aujourd'hui, il pourrait plus y avoir de musique dite classique sans l'intervention de ces grandes entreprises. C'est devenu des mécènes très importants.
C'est en tout cas petit à petit le financement de la musique classique change, et
moins l'État, le ministère de la Culture, et plus les entreprises.
Il y a toujours
entreprises.
Beaucoup l'État et beaucoup toujours le ministère de la Culture, qui est quand même, on peut pas, en tout cas on est l'un des pays où ça reste quand même très très soutenu par les institutions publiques. Mais c'est vrai que on voit bien que il n'y a pas de potentiel de développement, on va dire, très très marqué de ce côté-là. Donc j'imagine que pour plein de nouvelles initiatives, on est obligé de trouver d'autres solutions. Mmh.
Yeah, in different ways. Maybe I start with a very easy one. This concerto is written for a great, great cellist, for Rostropovich. And I think that the purpose of the composer, besides all his ideas in composition, or besides spiritual ideas in that very particular piece, is that it should be a cello concerto with all the needs espressive and virtuoso cello likes to have when he performs. So the collaboration between Rostropovich and Shostakovich, like many other composers who did write for him, was very successful in terms of the cellist wants to use his instrument as he likes to appear.
There's quite a lot of
On vient d'entendre Heinrich Schiff, qui a été votre professeur, qui est, je crois, avec qui vous avez passé beaucoup de temps. C'est un extrait d'une émission de la BBC qu'on pourra retrouver sur le site internet quand on, je penserai, le mettre à jour. Vous avez dit de lui, je crois moi être la plus belle phrase qu'un élève puisse dire de son maître, vous avez dit à 60 ou 65 ans, il me faisait connaître ce que c'était d'avoir 20 ans.
C'est vraiment ce que j'ai pensé spontanément en temps réel. En fait, c'est pas quelque chose auquel j'ai pensé par la suite. C'est vraiment sur le moment. J'avais cette étrange impression, en effet, qu'il se rappelait lui-même très très bien ce que c'était que d'avoir 20 ans.
Mais ça veut dire qu'il vous a appris plus que la musique ?
Ah oui, oui,
parce que moi, c'est ce que j'entends quand j'entends cette phrase-là.
Il était particulier avec les élèves. Il se consacrait totalement à ses élèves. C'est-à-dire qu'il avait assez peu d'élèves et ensuite il essayait d'avoir un rapport avec eux extrêmement approfondi.
Donc vous avez vécu. Vous avez parlé tout à l'heure que vous parliez l'allemand. Vous étiez donc en Autriche.
Je parlais pas l'allemand.
Ah, pardon, à l'époque, vous parliez pas allemand. Vous l'avez appris à cette occasion ?
J'ai jamais parlé allemand. Je parlais toujours pas allemand. Mais je parlais anglais avec lui.
C'est ça, d'accord. C'est d'abord, vous avez parlé d'Allemagne. Et donc avec lui, vous parliez anglais.
Par contre, il était professeur à Vienne. Voilà, on parlait anglais, mais il était professeur à l'université de Vienne et j'ai habité là-bas quelques années. Ouais.
Et donc, c'est des souvenirs, quand vous le réentendez, je vais pas vous faire pleurer, mais c'est des souvenirs particuliers, c'est des choses qui, là, ce qu'on vient d'entendre dire, de Rostropovich et de Shostakovich, c'est des choses qui vous a transmises ?
Absolument, j'ai retrouvé sa manière de parler comme ça. Alors là, c'était pas un passage où il était spécialement humoristique, mais j'ai retrouvé toutes ses intonations, sa manière de parler, etc. Et en effet, oui, j'avais pas entendu sa voix depuis pas mal de temps.
Vous disiez tout à l'heure que, pas tout du tout à l'heure, je citais un extrait donc, de cette citation qui était dans Libération. Et dans cette même article, vous dites qu'avec lui, vous avez appris à jouer sur des cordes à vide. Alors, je me suis demandé ce que c'était, c'est qu'on joue et ça fait pas de son, c'est ça ?
En fait, ce que je voulais dire par là, c'était... Non, des cordes à vide, c'est des cordes où on n'appuie pas les doigts de la main gauche pour changer la hauteur des sons. C'est-à-dire, c'est la corde, comment on pourrait dire, juste la tension de la corde sur le chevalet. J'ai jamais eu besoin d'expliquer ça, mais c'est pas du tout contre vous. Mais juste, comme je suis pas pédagogue, j'ai pas eu de petits élèves, j'ai jamais eu besoin d'expliquer ça en fait.
Parce que ce que vous aviez l'air de dire dans l'interview, c'est que c'était rare.
Ce que je voulais dire par là, c'est que j'ai recommencé une partie de ma technique vraiment à zéro, pour ainsi dire. Et ça, c'est très rare avec ce genre de maître qui évolue dans des sphères musicales qui évoluait dans des sphères musicales depuis 40 ans, avec les plus grands chefs d'orchestre, les plus grandes salles, etc., les plus grands compositeurs qui ont écrit pour lui. C'est très rare de prendre le temps pour un jeune élève et de lui faire recommencer sa technique à zéro, si vous voulez. C'est quelque chose de très...
Et là, vous étiez le seul élève, vous étiez plusieurs à la fois ensemble.
Alors, quand je l'ai rencontré, j'étais son seul élève, et puis ensuite il a un peu augmenté le nombre d'élèves qu'il a eu, mais quand j'ai débuté avec lui, il rouvrait sa classe, si vous voulez, et donc j'étais son seul élève. Et c'était ça aussi, c'était assez particulier de se retrouver seul avec quelqu'un comme ça.
Alors je ne sais pas si vous avez suivi tous les épisodes, parce que tout ça se passe avec des attachés de presse, il y a beaucoup de monde autour de vous finalement. En fait, moi je vous cours après depuis un certain temps, et je vous avais été en tournée au Brésil, mais c'est pas grave du tout, l'essentiel c'est de se rencontrer. Vous avez été donné une série de concerts au Brésil.
Oui.
Le Brésil, visiblement, c'est une terre pour les musiciens français. Vous n'êtes pas le premier que je reçois qui a été au Brésil.
C'est vrai, ah oui.
Qu'est-ce que vous avez joué ? Comment ça s'est passé là-bas ?
Alors je suis allé faire 7 concerts je suis resté pratiquement 3 semaines, donc ça c'est assez rare, parce que souvent avec les moyens modernes de locomotion on fait un concert ici, un concert là, etc., et c'est assez frustrant, on voit pas grand chose des pays, et donc là c'était assez différent. Justement, j'ai pu jouer aussi avec des Brésiliens, et je suis pas simplement venu avec mes partenaires habituels pour jouer là-bas, donc ça c'était une autre chose assez sympathique. J'ai pu aussi donner quelques masterclass à des jeunes qui avaient quelques années de moins que moi, mais pas beaucoup plus, et donc ça je recherche un peu ce contact là, c'est assez égoïste en fait, c'est pas, j'espère que eux peuvent en retirer quelque chose, mais en tout cas moi ce qui m'intéresse c'est aussi de rencontrer des gens de mon âge qui habitent là-bas, pour voir un peu comment ils sont, comment c'est pas de l'ethnomusicologie, c'est faut savoir comment ils vivent, comment se passe le monde de la musique par là-bas.
Comment ils apprennent peut-être la musique, quels sont
leurs centres d'intérêt, quels sont les bâtons qu'ils ont dans les roues, etc. Et donc j'ai fait cette tournée-là, j'ai vu une bonne partie du Brésil, ce qui est ridicule à l'échelle du Brésil, mais ce qui est quand même, on va dire, j'ai vu les capitales des États d'un tiers du Brésil, on va dire. Ce qui est déjà pas mal, je vous assure, c'est comme 5 ou 6 fois la France. Et voilà, c'était assez émouvant comme voyage.
Vous aimeriez-vous aujourd'hui rejoindre un orchestre ?
Si j'aimerais rejoindre un orchestre...
Je sais pas si c'est comme une équipe de foot, on devient titulaire.
Probablement pas à l'instant présent. J'aimerais beaucoup faire quelques projets avec des orchestres, parce qu'il y a un répertoire qui est probablement celui qui me fascine le plus, et le monde de l'orchestre en lui-même me fascine totalement. Mais... Pas plus que ça pour faire partie du groupe. Je reviens juste un tout petit peu sur le Brésil parce que une des choses qui m'a le plus frappé et vraiment que je garderai probablement très longtemps en tête.
C'est la salsa.
Non, c'est la jeunesse des publics de musique classique parce que ça c'est probablement la chose la plus déprimante pour un jeune musicien en Europe de 27 ans. C'est de tout le temps jouer pour des têtes grises que je ne leur jette pas la pierre, je suis ravi, mais ou des têtes blanches. Mais
moi je dirais rien.
Mais au Brésil. C'était impressionnant de voir que vraiment les 70% du public étaient entre 20 et 35 ans, et ça c'est un changement immense pour moi.
Et vous avez une idée de pourquoi ? Vous avez pu en parler,
personne m'a apporté vraiment de réponse très 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 claire. Je crois que c'est les goûts des gens. Peut-être c'est un peu moins catalogué musique élitiste, etc. Je tiens à préciser quand même qu'en France c'est catalogué musique élitiste alors que ça ne l'est pas du tout. Ça fait des dizaines et des dizaines d'années qu'on peut aller au concert et à l'opéra pour des très modiques sommes. Donc c'est juste l'intérêt du public, c'est juste les gens qui doivent passer le pas de la porte de concert.
Qu'est-ce qui vous motive à... Qu'est-ce qui vous motive à faire partie d'un trio ?
La musique de chambre, et probablement je disais ça tout à l'heure quand on parlait de commencer la musique, on attend avec impatience le moment où on pourra partager ça avec d'autres gens en musique de chambre. Ben c'est exactement ça, c'est que pour moi c'est la base de la pratique du musicien, c'est vraiment de pouvoir faire ça avec d'autres gens, d'avoir ce jeu de ping-pong musical où on fait quelque chose, on a l'avis de l'autre personne, quelquefois c'est la réponse musicale, quelquefois c'est la réponse dans les impressions que l'autre personne a de ce qu'on vient de faire, et donc ça c'est pour moi c'est absolument musicalement vital.
Et donc si j'ai bien compris, vous êtes dans un trio avec quelqu'un, Adam Laloum, que vous avez rencontré au conservatoire.
Exactement,
donc, que vous connaissez donc depuis très longtemps. Plus de la moitié de votre vie.
Oui,
donc
ça fait 14 ans. Ça fait pile la moitié de ma vie, exactement.
Et donc là, au fur et à mesure, on joue différemment. La manière dont on joue à plusieurs, ça évolue dans le temps ou...
Oui, alors sur une si longue période, ça, les implications m'échappent presque. Évidemment, il y a tout le côté répétition, on se parle, on se corrige, etc. Mais il y a aussi tout ce qui nous échappe, c'est-à-dire qu'on a grandi ensemble, si vous voulez. Donc on en s'est influencé sans même le savoir.
Vous avez aussi construit une carrière ensemble ?
Oui, alors ça, j'imagine par la force des choses, mais c'était pas
un calcul
exactement. On va dire qu'il y a des moments où je m'enthousiasmais plutôt de voir qu'on arrivait à faire de manière professionnelle quelque chose qu'on n'avait pas envisagé forcément dans ce but-là au départ.
On peut citer juste la troisième personne parce que moi,
Misa Yang, une violoniste
je connaissais Adam Laloum, mais je ne la connaissais pas.
Une violoniste coréenne qui a grandi au Japon et qui est arrivée en France il y a une dizaine d'années.
Et que vous avez rencontré aussi au conservatoire ?
Qu'on a rencontré dans des sphères étudiantes, mais pas au conservatoire lui-même. On n'a pas étudié exactement au même moment.
Alors on écoute Shostakovich, c'est toujours un extrait de ce CD du concours Reine Elisabeth, c'est vous qu'on entend jouer. J'allais vous appeler Adam Laloum, pas du tout, vous vous appelez Victor Julien, je savais que je buterais un moment
à l'autre.
Victor Julien Laferrière, ça pourrait presque être un exercice de prononciation, Victor Julien.
Je suis assez d'accord, je crois que la clé c'est de dire Julien lentement.
D'accord, oui, moi j'ai toujours pressé. On est dans quelque chose de très technique. Quand on joue ça, est-ce qu'on a peur d'avoir une crampe ? Moi, c'est une question que je me pose. Est-ce que ça arrive ?
Il doit y avoir 3 ou 4 pièces dans le répertoire de violoncelle où on a peur d'avoir une crampe et celle-ci en fait partie. Franchement, pour avoir échangé avec beaucoup de violoncellistes, on est tous dans cette peur-là. Et d'ailleurs, on en est pas... moi, j'en étais vraiment pas loin. À la toute fin, je perds un petit peu mon archer, c'est-à-dire je perds un peu comme si je perdais ma raquette de tennis, un petit peu, et je le rattrape in extremis. Mais... Donc c'est une vraie peur.
L'an dernier, j'ai reçu ici un pianiste qui disait qu'aujourd'hui, on apprenait à frapper les touches autrement pour protéger les articulations, les ligaments. C'est aussi quelque chose qu'on apprend dans votre métier à vous, le violoncelle.
Alors je savais pas pour ce que vous venez de dire. Par contre, je pense que en fait c'est ce que j'apprends en fait en temps réel, c'est que on est obligé de conscientiser notre utilisation de notre corps avec l'âge, n'est-ce pas, puisque à 28 ans on n'a pas exactement, enfin j'ai pas encore 28, mais on n'a pas exactement le même corps qu'à 18, et donc on apprend petit à petit à utiliser, à savoir ce qui la débauche d'énergie inutile, comment utiliser de meilleure manière, etc., tout en gardant une intensité, espérons. Et donc c'est plutôt ça que j'ai en tête.
Quels sont vos projets là pour les mois qui viennent? L'été pour vous c'est la saison des festivals, vous travaillez ou partez pas en vacances?
Juin, juillet, là je travaille énormément, et ensuite août est très très calme. Voilà, c'était un peu fait exprès, j'ai besoin d'avoir un petit peu de temps pour... Là aussi ça fait partie de la conscientisation d'utilisation du corps, j'ai appris qu'il fallait que j'aie aussi quelques semaines sans.
Et dans ces cas-là, c'est du off complet ou quand même vous faites quelques gammes le matin?
C'est un terrain un peu inconnu, parce que jusqu'à maintenant je faisais quasiment jamais de off complet, je faisais peut-être 5-6 jours dans l'année d'affilée, je veux dire. Sinon je fais de temps en temps un jour, hein, évidemment, mais sinon d'affilée je faisais rarement, et donc c'est un peu une terre inconnue, mais je pense que je vais essayer au moins 10 ou 15 jours sans violoncelle.
Ça vous angoisse? Vous en parlez comme quelque chose d'un peu angoissant.
Un petit peu. En fait, ce qui m'angoisse, c'est pas ça. Ce qui m'angoisse, c'est la reprise. Ah non, arrêtez le violoncelle. Moi, je l'oublie tout de suite. Le violoncelle, c'est aucun problème, aucun souci. Mais c'est la reprise.
Là, vous prenez le monde, vous lisez le monde tous les jours.
Tout le temps.
D'accord. C'est important, les prix. Vous espérez en avoir d'autres?
Non, la période des concours, j'en suis ravi d'annoncer qu'elle est terminée. c'est quelque chose qu'on n'aime pas faire, qu'on soit artiste peintre ou qu'on soit musicien, on n'aime pas les concours. Et donc, c'est l'une des choses qui me réjouissait le plus avec ce prix Reine Elisabeth, c'était de savoir que c'était mon dernier concours.
Mais écoutez, merci beaucoup d'être venu. La relève saison, épisode 16, saison 2, c'est déjà fini. Merci donc à vous, Victor Julien.
Merci
la
à vous.
Ferrière d'être venu. On mettra en ligne sur notre site toutes les informations nécessaires cette semaine à la réalisation. On a appris qu'il avait été violoniste. Il y avait Antonin. À la présentation, à la préparation, moi j'ai été accordéoniste, donc c'est Christophe. Vous retrouverez tout sur la page de La Relève sur le site de Radio Campus Paris. Les podcasts devraient être bientôt à jour. Tout de suite, vous retrouvez le programme musical de Radio Campus Paris. Et à 19h, comme tous les jours, c'est l'heure de la matinale. Nous, on se retrouve dans 335 heures pour un nouveau numéro de La Relève. Et normalement, on devrait être sage comme des images. À très bientôt.